Écoutez, frères et sœurs, la parole de Dieu telle qu'elle peut vous parvenir lorsque je vais lire le texte de Matthieu 25 à partir du verset 31. C'est le grand texte où Jésus dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ». C'est un texte très répétitif et on peut se demander si le pasteur qui le lit ne devrait pas le raccourcir un peu. D'ailleurs, l'évangéliste lui-même, vous le remarquerez vers la fin, l'a raccourci. Mais Matthieu l'a écrit ainsi, il l'a voulu ainsi, et je vous propose que nous nous laissions envoûter par sa répétition même. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Entre parenthèses, vous êtes conscient du fait que les boucs ne sont pas les mâles des brebis. C'est les béliers. Laissons cela. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et dans la parabole précédente, il y a les mots « Entre dans la joie du Père ». Il me semble que cela résonne encore ici. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Et les justes lui diront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ?» Avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. » Que Dieu bénisse pour nous la lecture de la Bible. Frères et sœurs, je vous invite à chanter le cantique 400, les trois strophes. Levons-nous et chantons.
Présence divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès. C'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi.
Ô Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Jésus disait, si on se détourne devant celui qui a faim, qui est en prison, si on manque de solidarité, de fraternité, de justice, si on se conduit avec injustice, on est bon à être jeté au feu. Mais nous aimerions tous vivre dans un pays béni par Dieu, un pays heureux. Et j'ai lu un sondage récent qui dit que 73% des Français ont le sentiment de vivre dans une société injuste. Notre société est complexe, elle a organisé une entraide institutionnalisée qui fonctionne. Personne en prison ne peut dire « j'étais en prison et on ne m'a pas visité ». Il y a des aumôniers de prison de toutes les religions, il y a des visiteurs de prison qui font que tous ceux qui veulent bien sont visités. Et c'est bien. Personne ne peut vraiment dire en France qu'il a faim. Il y a des restaurants du cœur, il y a des organisations d'églises ou laïques de toutes sortes qui donnent à manger à tous ceux qui le veulent bien, et souvent d'ailleurs pas mal. D'ailleurs, il y a aussi le revenu de solidarité active, comme on l'appelle maintenant le RMI. Il y a la couverture sociale médicalisée pour tous ceux qui sont malades. Et vous savez que en France, on peut être sans papier, sans argent, et néanmoins soigné gratuitement à l'hôpital, et c'est bien. Personne ne peut dire « j'étais malade et on m'a laissé sur le bord du trottoir ». On a organisé la sécurité sociale pour tout le monde. Et c'est bien, il y a de nombreuses associations fraternelles, charitables. Il y a la clairière, dont l'oratoire s'occupe si bien. Et on a ajouté à ce que disait Jésus, des études gratuites dans les écoles pour tout le monde, dans les collèges, dans les lycées aussi. Et c'est bien. On a fait un contrat social qui, mon Dieu, fonctionne, un lien social. Et pourtant, malgré tout cela et tout ce que je ne mentionne pas et que vous connaissez comme moi, 73% des Français estiment vivre dans une société injuste, dont Jésus dit « c'est bon à jeter au feu ». C'est vrai qu'il y a bien des injustices qui subsistent, il y a bien des précarités qui subsistent, qui s'accroissent, nous le savons. Mais c'est vrai qu'on entend parler, plutôt que de solidarité et de fraternité, on entend plutôt parler de s'enrichir, on entend plutôt parler de niveau de vie, de consommation. On ne nous parle guère de nous unir dans des efforts collectifs pour créer un monde plus humain, plus solidaire, plus heureux. On nous parle peu, finalement, de justice, d'équilibre, de fraternité. La télévision met l'accent sur la consommation, sur le luxe, sur la dépense, sur le divertissement et la frivolité, sur la quête de richesse, de jouissance. Même la gauche qui, traditionnellement, défendait la redistribution, la fraternité, l'égalité, nous parle quand même beaucoup de niveau de vie, de ne surtout pas augmenter les impôts. Notre monde autour de nous, c'est vrai, cela explique peut-être le sentiment de 73% des Français, notre monde ne parle guère de bien commun, d'un contrat social, d'un esprit commun, intelligent et humaniste. Et 73% des Français, d'après ce sondage, ont l'impression de passer à côté de l'essentiel et de dire « j'étais malade et on ne m'a pas visité ». Cela n'a pas toujours été ainsi. À la Libération, avec la nouvelle République autour du général de Gaulle, vous savez, en 1945, il y a eu ce grand mouvement qui a imaginé l'inimaginable, c'était la sécurité sociale pour tous, même pour les pasteurs. On se passionnait à ce moment-là pour des idéologies qui voulaient, ou dont on croyait, organiser justement un contrat social, le bien commun, la fraternité entre tous les hommes. Et dans la suite, dans les années qui ont suivi, les années 60 aussi, les églises se passionnaient, on inventait l'œcuménisme. L'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, pour qu'on ne puisse pas dire « j'étais torturé, vous n'êtes pas intervenu ». L'aide au tiers-monde, rappelez-vous, le planning familial, etc. Eh bien, par contraste, il me semble qu'aujourd'hui, on est à court d'idées. Et c'est pourquoi 73% des Français pensent que, franchement, on est à court d'idées sur le plan de la justice. Il y a le monopole de la pensée unique qui est marqué par le marché, les cours de la bourse, la consommation. Alors que Jésus faisait appel à notre enthousiasme en parlant d'amour du prochain, en parlant d'entraide, d'enthousiasme. Entre dans le royaume, dans la parabole précédente des deniers, entre dans la joie de ton maître. Voyez-vous, dans ce texte de Matthieu 25, au début, Jésus se présente comme le roi, fils de l'homme, Dieu lui-même qui va opérer le jugement des vivants et des morts sur son trône, le trône de sa gloire. Et puis, vous reprendrez dans vos Bibles à la maison, il y a un glissement de sens. Et Jésus, ou Dieu, ou le roi, descend de son trône et devient un des frères parmi les frères qui sont devant le roi. Et puis, il ne se contente pas de descendre de son trône, d'être dans la foule des hommes en présence du trône. Il entre dans les cœurs, il entre dans les âmes de chacun de ceux qui sont là. Quand il dit « j'étais malade, j'étais en prison, c'est à moi que vous l'avez fait ». Il s'identifie avec le prisonnier, avec le malade, avec celui qui a faim, avec celui qui a soif, celui qui est nu. Dieu, dans les hommes, il y a plus en nous qu'un consommateur, qu'un électeur, qu'un citoyen, qu'un contribuable. Il y a en nous cette présence de celui qui dit « Je m'identifie à toi ». Toutes les fois que l'on t'a fait cela, ou toutes les fois que l'on ne t'a pas fait cela, c'est à moi. Dieu, le roi, le Fils de l'homme, c'est à moi qu'on l'a fait ou qu'on ne l'a pas fait. Il y a en nous une transcendance, Dieu en nous. Dieu en nous. Le théologien Moltmann disait dans son langage, le théologien allemand, « Les êtres vivants sont ouverts à la plénitude inépuisable de la vie divine. » Inhabitation divine. Et le Dieu qui est en nous n'est pas une divinité immobile. Le Dieu qui est en nous, c'est ce que les théologiens appellent le Saint-Esprit. C'est le dynamisme créateur en nous. C'est l'élan vital de Dieu qui nous crée, qui nous recrée, qui nous réoriente, qui nous fait tenir debout, qui nous permet, comme un arbre plantés près de l'eau, de puiser au plus profond de nous-mêmes la fraîcheur qui fait que, même en temps de sécheresse, nous pouvons tenir. C'est le Dieu qui est en nous le fondement nourricier dans lequel notre plante est enracinée. C'est l'œuvre de vie du Dieu créateur à laquelle on collabore. En faisant cela à l'un de ses plus petits, de ses frères, dans lequel il est présent, c'est à son œuvre de vie, peut-être, alors qu'on ne collabore pas. C'est ainsi, me semble-t-il, que Dieu voit la société. Entre parenthèses, si vous êtes de ceux qui ne savaient pas très bien prier ou qui ne vous contentaient pas de répéter les prières apprises par cœur, le soir, faites un petit instant de méditation où vous essayerez seulement de regarder votre vie avec le regard de Dieu, de regarder la vie des autres avec le regard de Dieu, de regarder la vie du monde avec le regard de Dieu que Jésus nous a enseigné. Jésus qui n'a pas dit « Priez pour que Dieu nourrisse les pauvres. Priez pour que Dieu guérisse les malades. Priez pour que Dieu visite les prisons. » C'est justement lui qui a faim, qui est malade, qui est en prison et qui attend que nous le fassions. Vous savez, on disait, quand vous entendez sonner le glas, la cloche des morts, ne demandez pas pour qui sonne le glas. Il sonne pour votre frère, il sonne pour Dieu, pour le Christ, il sonne pour vous. Un homme d'affaires m'a dit cet été, ça m'est égal que les gens pâtissent de ce que j'organise dans mes affaires, ce que je veux c'est gagner de l'argent. Et justement, Dieu est l'un de ses clients sur le dos duquel il gagne de l'argent. Ce ne sont pas seulement les Français dont je parle. Au Conseil œcuménique, il y a 49 ans, il y a 7 fois 7 années, comme on dirait dans la Bible, en 1961, à New Delhi, les théologiens indiens, théologiens chrétiens, indiens, ont dit que les frères du Christ sont ceux qui sont aussi les hommes des autres religions. Que Dieu est présent, que le Christ est présent, que le Fils de l'homme, le roi, est présent dans les âmes de ceux des autres religions. Nous sommes membres du grand réseau de vie, de la grande toile, on dirait aujourd'hui, animée par la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Vous savez le psaume qui disait, c'est le dernier mot du dernier psaume de la Bible, « Que tout ce qui respire loue l'Éternel. » Et je comprends, en lisant Matthieu 25, que tout ce qui respire, respire parce que Dieu respire en lui. Est-ce que ce que je dis est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle que l'Évangile. Y a-t-il un bonheur à vivre l'Évangile ? Certainement. L'appel de Jésus, là, dans Matthieu 25, gonfle le cœur. Vous m'avez nourri, entrez dans la joie. Il y a, en vérité, un bonheur à construire le royaume de Dieu, à collaborer avec le Dieu créateur qui est actif en ce moment dans vos âmes, dans la mienne et dans celle de nos contemporains et des gens des autres religions. Il y a un bonheur à entrer dans la joie de Dieu, conversation après conversation. Prenons garde à ce que nous disons quand nous parlons. Il y a joie, élection après élection,
engagement social après engagement social associatif, à construire avec la créativité de Dieu un monde meilleur, un monde d'amour, un monde de solidarité, un monde de fraternité. Vous savez, on chante parfois « Brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. » Alors, on ne laisse pas 10% de la population, comme disent les sondages, sur le bord de la route. Ceux qui disent « Je ne fais pas de mal » et c'est déjà quelque chose, n'entre pas dans la pensée du Christ, qui lui dit « entre dans la joie ». Il n'y a pas de joie à dire « je ne fais pas de mal », et c'est déjà quelque chose. Et voyez-vous, je suis frappé du fait que 73% des Français pensent que collectivement, on n'entre pas dans la joie. Écoutez les discours que vous entendez autour de vous, les discours politiques, mais pas seulement. Écoutez ce qu'on dit autour de vous, à la sortie du temple peut-être. Écoutez si les discours que vous entendez, au lieu de jouer sur la joie, jouent sur votre égoïsme et cherchent à le développer. Vous parlez de votre niveau de vie, vous parlez de l'économie, parce que ce n'est pas la joie, l'économie et le niveau de vie. Au contraire, vous réduire à un consommateur, à un producteur, c'est une sorte de mépris de notre humanité. Nous, qui avons, comme les autres, Dieu agissant en nous, Dieu créant en nous, si on vous réduit à un consommateur de Monoprix ou d'Auchan, c'est vraiment méprisant. Et cela développe une sorte de pessimisme. Et 73% des Français disent « notre société est injuste ». Jésus dirait « elle mérite d'être jetée au feu ». Et voyez-vous, pour les Français, les religions, un autre aussi sans doute, n'aident pas assez à vivre. Les religions, la nôtre aussi sans doute, n'est pas assez constructive, n'est pas assez positive. Les gens disent, peut-être à tort, peut-être parce qu'ils ne viennent pas au temple, les gens disent, la religion c'est négatif, ça ne fait que parler du péché, le péché originel, le monde de la chute, la religion c'est tout ce qui est interdit, disent les gosses, vous savez. Une romancière à succès américaine qui se nomme Anne Rice. On peut retenir son nom parce qu'il semble qu'en ce moment elle soit plus connue encore que d'habitude aux États-Unis, a dit qu'elle quittait toutes les églises et la chrétienté au nom du Christ. Parce que, dit-elle, le Christ m'a appris la fraternité et l'espérance entre les hommes. Et à cause de son message, je ne veux plus aller à l'église. Dans les églises, on est contre les homosexuels, on est contre les avortements, on est contre le divorce, on est contre tout. La religion est hostile, a-t-elle dit. Vous pouvez penser qu'elle a bien tort, mais bien des gens disent aussi cela. J'étais en prison, j'ai eu soif. Il n'est pas question de vous dire d'être forcément visiteur de prison ou de donner des verres d'eau aux gens dans la rue. Rares sont nos contemporains qui ont soif. Mais heureux, veut dire Jésus, tous ceux qui laissent l'esprit fraternel, créateur de ces paroles de Matthieu 25, animer leur quotidien. Chacun là où il est placé, dans des structures de pouvoir, au niveau national, dans des structures de pouvoir au niveau régional ou dans les associations, que sais-je, les relations communales, intercommunales, dans les conversations de café ou entre amis. trois personnes marchaient ensemble.
Une disait « Tout va mal ». L'autre disait « Tout de même, il faut voir le bon côté des choses ». Et le troisième disait « J'ai une boussole dans le cœur afin que le dynamisme créateur de Dieu qui me réoriente toujours avec tous les hommes de bonne volonté sur le chemin de la construction d'un monde meilleur que Dieu aime, fait que j'entre dans la joie. » Amen.